Au second déjeuner, Charles reçut des lettres de Paris et les lut.
Eh bien, mon cousin, êtes-vous content de vos affaires ? Dit Eugénie à voix basse.
Ne fais donc jamais de ces questions-là, ma fille, répondit Grandet. Que diable, je ne te dis pas les miennes, pourquoi fourres-tu le nez dans celles de ton cousin ? Laisse donc ce garçon.
Oh, je n'ai point de secret, dit Charles.
Ta ta ta, mon neveu, tu sauras qu'il faut tenir sa langue en bride dans le commerce.
Quand les deux amants furent seuls dans le jardin, Charles dit à Eugénie en l'attirant sur le vieux banc où ils s'assirent sous le noyer. J'avais bien présumé d'Alphonse. Il s'est conduit à merveille. Il a fait mes affaires avec prudence et loyauté. Je ne dois rien à Paris. Tous mes meubles sont bien vendus. Et il m'annonce avoir, d'après les conseils d'un capitaine au long cours, employé 3 000 francs qui lui restaient en une pacotille composée de curiosités européennes, desquelles on tire un excellent parti aux Indes. Il a dirigé mes colis sur Nantes, où se trouve un navire en charge pour Java. Dans 5 jours, Eugénie, il faudra nous dire adieu pour toujours, peut-être, mais au moins pour longtemps. Ma pacotille et 10 000 francs que m'envoient 2 de mes amis sont un bien petit commencement. Je ne puis songer à mon retour avant plusieurs années. Ma chère cousine, ne mettez pas en balance ma vie et la vôtre. Je puis périr, peut-être se présentera-t-il pour vous un riche établissement.
Vous m'aimez ? Dit-elle.
Oh oui, bien, répondit-il avec une profondeur d'accent qui révélait une égale profondeur dans le sentiment.
J'attendrai, Charles.
Dieu, mon père est à sa fenêtre, dit-elle en repoussant son cousin qui s'approchait pour l'embrasser. Elle se sauva sous la voûte. Charles l'y suivit. En le voyant, elle se retira au pied de l'escalier et ouvrit la porte battante. Puis, sans trop savoir où elle allait, Eugénie se trouva près du bouge de Nanon, à l'endroit le moins clair du couloir. Là, Charles, qui l'avait accompagnée, lui prit la main, la tira sur son cœur, la saisit par la taille et l'appuya doucement sur lui. Eugénie ne résista plus. Elle reçut et donna le plus pur, le plus suave, mais aussi le plus entier de tous les baisers.
Chère Eugénie, un cousin est mieux qu'un frère. Il peut t'épouser, lui dit Charles.
Ainsi soit-il, cria Nanon en ouvrant la porte de son taudis. Les deux amants effrayés se sauvèrent dans la salle où Eugénie reprit son ouvrage et où Charles se mit à lire les litanies de la Vierge dans le paroissien de Madame Grandet.
Quien ? Dit Nanon. Nous faisons tous nos prières.
Dès que Charles eut annoncé son départ, Grandet se mit en mouvement pour faire croire qu'il lui portait beaucoup d'intérêt. Il se montra libéral de tout ce qui ne coûtait rien, s'occupa de lui trouver un emballeur et dit que cet homme prétendait vendre ses caisses trop chères. Il voulut alors à toute force les faire lui-même et y employa 2 vieilles planches. Il se chargea de les faire descendre par bateau sur la Loire, de les assurer et de les expédier en temps utile à Nantes. Depuis le baiser pris dans le couloir, des heures s'enfuyaient pour Eugénie avec une effrayante rapidité. Parfois, elle voulait suivre son cousin. Elle pleurait souvent en se promenant dans ce jardin, maintenant trop étroit pour elle, ainsi que la cour, la maison, la ville. Elle s'élançait par avance sur la vaste étendue des mers. Enfin, la veille du départ arriva. Le matin, en l'absence de Grandet et de Nanon, le précieux coffret où se trouvaient les 2 portraits fut solennellement installé dans le seul tiroir du bahut qui fermait à clé et où était la bourse maintenant vide. Le dépôt de ce trésor n'alla pas sans bon nombre de baisers et de larmes. Quand Eugénie mit la clé dans son sein, elle n'eut pas le courage de défendre à Charles d'y baiser la place.
« Elle ne sortira pas de là, mon ami. Eh bien, mon cœur y sera toujours aussi. »«
Ah, Charles, ce n'est pas bien, » dit-elle d'un accent peu grondeur.
« Ne sommes-nous pas mariés ? » répondit-il. J'ai ta parole, prends la mienne.
À toi pour jamais, fut dit 2 fois de part et d'autre. Aucune promesse faite sur cette terre ne fut plus pure. La candeur d'Eugénie avait momentanément sanctifié l'amour de Charles. Le lendemain matin, le déjeuner fut triste. Malgré la robe d'or et une croix à la Jeannette que lui donna Charles, Nanon elle-même, libre d'exprimer ses sentiments, eut la larme à l'œil.
Ce pauvre mignon monsieur qui s'en va sur mer,
Que Dieu le conduise.
À 10h30, la famille se mit en route pour accompagner Charles à la diligence de Nantes. Nanon avait lâché le chien, fermé la porte et voulu porter le sac de nuit de Charles. Tous les marchands de la vieille rue étaient sur le seuil de leur boutique pour voir passer ce cortège auquel se joignit sur la place Maître Cruchot.
« Ne va pas pleurer, Eugénie, » lui dit sa mère.
« Mon neveu, » dit Grandet sous la porte de l'auberge, en embrassant Charles sur les deux joues, « partez pauvre, revenez riche, vous trouverez l'honneur de votre père sauf. Je vous en réponds, moi, Grandet, car alors il ne tiendra qu'à vous deux.
Ah, mon oncle, vous adoucissez l'amertume de mon départ. N'est-ce pas le plus beau présent que vous puissiez me faire ?»
Ne comprenant pas les paroles du vieux tonnelier qu'il avait interrompu, Charles répandit sur le visage tanné de son oncle des larmes de reconnaissance, tandis qu'Eugénie serrait de toutes ses forces la main de son cousin et celle de son père. Le notaire seul souriait en admirant la finesse de Grandet, car lui seul avait bien compris le bonhomme. Les quatre saumurois, environnés de plusieurs personnes, restèrent devant la voiture jusqu'à ce qu'elle partît. Puis, quand elle disparut sur le pont et ne retentit plus que dans le lointain, « Bon voyage !» dit le vigneron. Heureusement, Maître Cruchot fut le seul qui entendit cette exclamation. Eugénie et sa mère étaient allées à un endroit du quai d'où elles pouvaient encore voir la diligence et agitaient leur mouchoir blanc, signe auquel répondit Charles en déployant le sien.
« Ma mère, je voudrais avoir pour un moment la puissance de Dieu. » dit Eugénie au moment où elle ne vit plus le mouchoir de Charles.
En toute situation, les femmes ont plus de cause de douleur que n'en a l'homme et souffrent plus que lui. L'homme a sa force et l'exercice de sa puissance. Il agit, il va, il s'occupe, il pense, il embrasse l'avenir et y trouve des consolations. Ainsi faisait Charles. Mais la femme demeure, elle reste face à face avec le chagrin dont rien ne la distrait. Elle descend jusqu'au fond de l'abîme qu'il a ouvert, le mesure et souvent le comble de ses vœux et de ses larmes. Ainsi faisait Eugénie. Elle s'initiait à sa destinée. Sentir, aimer, souffrir, se dévouer sera toujours le texte de la vie des femmes. Eugénie devait être toute la femme, moins ce qui la console. Les chagrins ne se font jamais attendre, et pour elle, ils arrivèrent bientôt. Le lendemain du départ de Charles, la maison Grandet reprit sa physionomie pour tout le monde, excepté pour Eugénie, qui la trouva tout à coup bien vide. À l'insu de son père, elle voulut que la chambre de Charles restât dans l'état où il l'avait laissée. Madame Grandet et Nanon furent volontiers complices de ce statu quo.
« Qui sait s'il ne reviendra pas plus tôt que nous le croyons ?» disait-elle.
« Ah, je le voudrais voir ici, » répondit Nanon. « Je m'accoutumais bien à lui. C'était un bain doux, un bain parfait, monsieur. Quasiment joli, moutonné comme une fille. »
Eugénie regarda Nanon.
« Sainte Vierge demoiselle, vous avez les yeux à la perdition de votre âme. Ne regardez pas le monde comme ça. »
Depuis ce jour, la beauté de Mademoiselle Grandet prit un nouveau caractère. Les graves pensées d'amour par lesquelles son âme était lentement envahie, la dignité de la femme aimée donnèrent à ses traits cette espèce d'éclat que les peintes figurent par l'auréole. En revenant de la messe, où elle alla le lendemain du départ de Charles et où elle avait fait vœu d'aller tous les jours, elle prit chez le libraire de la ville une map monde qu'elle cloua près de son miroir afin de suivre son cousin dans sa route vers les Indes, afin de pouvoir se mettre un peu, soir et matin, dans le vaisseau qui l'y transportait, de le voir, de lui adresser 1000 questions, de lui dire « Es-tu bien ? Ne souffres-tu pas ? Penses-tu bien à moi en voyant cette étoile dont tu m'as appris à connaître les beautés et l'usage ?» Puis le matin, elle restait pensive sous le noyer, assise sur le banc de bois rongé par les vers et garni de mousse grise, où ils s'étaient dit tant de bonnes choses, de niaiseries, où ils avaient bâti les châteaux en Espagne de leur joli ménage. Elle pensait à l'avenir en regardant le ciel par le petit espace que les murs lui permettaient d'embrasser.
puis le vieux pan de muraille et le toit sous lequel était la chambre de Charles. Enfin, ce fut l'amour solitaire, l'amour vrai qui persiste, qui se glisse dans toutes les pensées et devient la substance ou, comme eussent dit nos pères, l'étoffe de la vie. Quand les soi-disant amis du père Grandet venaient faire la partie le soir, elle était gaie, elle dissimulait. Mais pendant toute la matinée, elle causait de Charles avec sa mère et Nanon. Nanon avait compris qu'elle pouvait compatir aux souffrances de sa jeune maîtresse sans manquer à ses devoirs envers son vieux patron. Elle qui disait à Eugénie « Si j'avais eu un homme à moi, je l'aurais suivi dans l'enfer. Je l'aurais... quoi, enfin, j'aurais voulu m'exterminer pour lui, mais... rien. Je mourrais sans savoir ce que c'est que la vie. » Croiriez-vous, mademoiselle, que ce vieux cornoyer, qui est un bon homme tout de même, tourne autour de ma jupe, rapport à mes rentes, tout comme ceux qui viennent y suffler le magot de monsieur en vous faisant la cour? Je vois ça, parce que je suis encore fine, quoique je sois grosse, comme une tour. Eh ben, mademoiselle, ça me fait plaisir, quoique ça ne soit pas de l'amour.